Chapitre 15. Six mois après les événements racontés dans le chapitre précédent, la comtesse d'Algar était un jour dans son salon en compagnie de sa mère. Elle était occupée à orner de rubans et à essayer à son fils un chapeau de paille. Le général Santa Maria entra. « Voyez, mon oncle, comme ce chapeau de paille va bien à ce petit ange du bon Dieu !»«
Tu le gâtes à faire plaisir, » répondit le général.
Eh, qu'importe, dit la marquise, intervenant dans la conversation. Toutes nous gâtons nos fils, qui ne laissent pas pour cela de devenir des hommes de mérite. Notre chère mère t'a passablement gâté toi-même, mon frère, ce qui ne t'a pas empêché de devenir ce que tu es.
Maman, donne-moi un biscuit, dit l'enfant à demi-voix.
Que signifie ce genre de tutoyer sa mère, monsieur le bambin, dit le général. Ce n'est pas ainsi qu'il faut parler. Il faut dire, « Ma mère, voulez-vous me faire le plaisir de me donner un biscuit, s'il vous plaît ?»
L'enfant se mit à pleurer en entendant la voix rude de son oncle. Sa mère lui donna un biscuit à la dérobée et sans que le général la vît.
« Il est si petit, observa la marquise, qu'il ne sait pas encore distinguer entre le « tu » et le « vous ».«
S'il ne le sait pas, dit le général, il faut le lui apprendre. »
« Mais, mon oncle, dit la comtesse, je veux que mes enfants me tutoient. »«
Comment, ma nièce ? » s'écria le général. « Toi aussi, tu veux prendre cette mode qui nous vient de France, comme toutes celles qui corrompent les mœurs ?»«
Comment le tutoiement entre les parents et les enfants peut-il corrompre les mœurs ?»«
Oui, ma nièce, comme toute autre chose, quelle qu'elle soit, qui contribue à diminuer le respect. » Aussi, j'aimais l'ancienne habitude des grands d'Espagne qui exigeait que leurs enfants les traitassent d'excellence.
Le tutoiement met sur un pied d'égalité qui ne doit pas exister entre les parents et leurs enfants, et il est certain qu'il diminue le respect, dit la marquise. Crois-tu, ma fille, que tu m'aurais aimé davantage si tu m'avais tutoyée ?
Non, ma mère, dit la comtesse en l'embrassant tendrement, mais je ne vous aurais pas moins respectée non plus.
« Tu as toujours été une enfant excellente et docile, dit le général, et les exceptions ne prouvent rien. Mais parlons d'autre chose. Je vous apporte une nouvelle qui ne peut manquer de vous faire plaisir. La belle corvette Eria, venant de la Havane, vient d'arriver à Cadix. Ainsi, il est probable que demain nous pourrons embrasser Raphaël. Est-il heureux, ce garçon-là ? À peine nous écrit-il qu'il a envie de revenir dans la péninsule, que l'occasion qu'il désirait vient s'offrir à lui et le capitaine général le renvoie porteur de plis importants. »
La marquise et la comtesse exprimaient la joie que leur causait cette nouvelle quand la porte s'ouvrit et Raphaël Arias se précipita dans les bras de ses parentes en les pressant à plusieurs reprises dans les siens et serra la main au général.
« Que je suis donc contente de te voir, mon bon, mon cher Raphaël !» disait la comtesse.
« Et moi, dit la marquise, je remercie Notre-Dame du Carmen de ton retour. Mais, ayant une jolie fortune, quel besoin avais-tu donc de traverser la mer comme si ce n'était qu'une simple mare? Je parie que tu as eu le mal de mer. »«
C'est la moindre des choses, parce que ce n'est qu'un mal passager, » répondit Raphaël. « Mais j'ai éprouvé un autre mal qui s'aggravait chaque jour. C'est le désir de revoir ma patrie et toutes les personnes que j'aime. » Je ne sais si cela vient de ce que l'Espagne est une excellente mère ou de ce que, nous autres, Espagnols, nous sommes de bons fils, mais nous ne pouvons vivre que dans son sein.
C'est pour ces deux raisons réunies, mon cher neveu, c'est pour ces deux raisons, répondit le général avec un sourire qui témoignait de sa grande satisfaction.
N'est-il pas vrai, Raphaël, que la Havane est un pays fort riche ? Demanda la comtesse.
« Oui, cousine, répondit Raphaël, et elle sait l'être en grande dame qu'elle est. Sa richesse n'est pas semblable à celle du parvenu de la veille, qui, comme un torrent, court, se précipite et passe en faisant grand bruit. Là, l'opulence se répand doucement et sans tapage, comme une rivière profonde et aux eaux abondantes, alimentée par des sources puissantes et inépuisables. Là, la richesse est partout, et sans qu'elle ait besoin de se montrer avec ostentation, tout le monde la voit et la sent.
Et les femmes, t'ont-elles plu ? Demanda la comtesse.
Règle générale, toutes les femmes me plaisent en tout pays.
Les jeunes parce qu'elles le sont, les vieilles parce qu'elles l'ont été, les petites filles parce qu'elles le seront.
Ne généralise pas tant la question, Raphaël, précise-la.
Eh bien, cousine, les Havanaises sont des espèces de lazzaroni féminin, couvertes de parfums et de dentelles, dont les souliers de satin sont des ornements inutiles pour les pieds microscopiques auxquels ils sont destinés, puisqu'on ne voit jamais une Havanaise debout. Elles chantent en parlant comme des rossignols, elles vivent de sucre comme les abeilles et fument comme des cheminées à vapeur. Leurs yeux noirs sont tout un poème dramatique et leur cœur est transparent comme une glace sans teint. Le drame lugubre qui fait dresser les cheveux sur la tête n'a pas été fait pour ce grand jardin où les femmes passent leur vie couchées sur leur hamac et se balançant au milieu des fleurs, rafraîchies par les éventails de plumes qu'agitent leurs esclaves.
« Sais-tu, dit la comtesse, que la voix publique a fait courir le bruit de ton mariage ?»«
Cette dame, la voix publique, ma chère Grâce, usurpe aujourd'hui le rôle que jouaient jadis les bouffons à la cour des rois. Comme elle dit tout ce qui lui plaît sans prendre souci de la vérité, je te dirai donc, cousine, que la voix publique a menti. »
Elle disait même plus, ajouta la comtesse en souriant. Elle donnait à la future 2 millions de douros de dot.
Raphaël se mit à rire.
Ah, maintenant j'y suis, dit-il. En effet, le capitaine général a eu l'idée de me faire endosser cette lettre de change.
Et comment était ma cousine présumée ?
Laide comme le péché mortel, son épaule gauche se portait résolument vers l'oreille du même côté, et la droite, au contraire, manifestait le plus grand éloignement pour l'autre oreille, sa voisine.
Et qu'as-tu répondu ?
Que je n'aimais pas les pilules, même dorées.
Tu as mal fait, dit le général.
Mais non, mon oncle, c'est son torse qui était mal fait.
Bien plus, dit la comtesse, sachant que...
Elle n'acheva pas la phrase, ayant remarqué qu'une impression douloureuse, comme aurait pu la produire un souvenir amer, s'était répandue sur la figure franche et ouverte de son cousin.
Est-elle heureuse ? Demanda-t-il.
Autant qu'il est possible de l'être, répondit la comtesse. Elle vit très retirée, surtout depuis qu'il y a des indices qui font croire qu'elle se trouve dans un état de bonne espérance, selon l'expression allemande de Don Frédéric, expression bien plus sensée et moins doucereuse que celle d'état intéressant des Anglais à laquelle nous avons donné des lettres de naturalisation.
Par la ridicule manie d'imitation étrangère qui vit et règne chez nous, ajouta le général, et grâce au mauvais goût qu'il inspire et la dirige.
Pourquoi ne pas dire purement et simplement les choses au lieu d'employer ces mots ridicules et affectés traduits d'un idiome étranger ? Vous faites comme les Français du siècle passé quand ils représentaient les déesses du paganisme en poudre et en vertugadin.
Et lui ? Demanda Arias.
Il est complètement changé depuis son mariage et sa réconciliation avec son beau-frère. C'est celui-ci qui le dirige en toutes choses. Maintenant, il s'occupe de ses biens et suit les conseils de mon mari, avec lequel il passe des semaines entières à la campagne. Enfin, c'est l'enfant gâté de la famille, dans laquelle il avait été reçu d'abord comme l'enfant prodigue.
Ce qui prouve, observa le général, combien est plein de bon sens notre proverbe qui dit « Mieux vaut le mauvais qu'on connaît que le bon à connaître ».
Et Héloïse ? Demanda ensuite Arias.
C'est une bien triste histoire, dit la comtesse. Elle s'est mariée secrètement avec un aventurier français qui se disait cousin du prince de Rohan, collaborateur de Dumas, envoyé par le baron Taylor pour acheter des curiosités artistiques et qui, par malheur, s'appelait Abélard. Elle trouva dans son nom et dans celui de son futur l'indication de leur union marquée par le destin. Elle vit en lui un homme qui était à la fois lettré, artiste et de famille princière et crut avoir rencontré l'être idéal qu'elle avait entrevu dans ses songes dorés. Ses parents, qui s'opposaient à cette union, étaient regardés par elle comme des tyrans de mélodrame, esclaves des idées arriérées et plongés dans l'obscurantisme.
Et dans l'espagnolisme, ajouta ironiquement le général.
Et la jeune personne éclairée, nourrie de romans et de poésies larmoyantes, s'unit à ce misérable, déjà marié 2 fois, comme nous l'avons su depuis. Au bout de quelques mois, et après avoir mangé tout l'argent qu'elle lui avait apporté, il l'abandonna à Valence, où son malheureux père a été obligé d'aller la chercher pour la ramener déshonorée, ni mariée, ni veuve, ni fille. Vous voyez, mes neveux, où conduit la manie fausse et exagérée des idées étrangères. « Raphaël, tu aurais pu lui épargner ses malheurs, » dit la comtesse. « Moi ? » s'écria son cousin. « Oui, toi, » continua Grâce. « Tu sais combien elle t'estimait et quel prix elle attachait à ton opinion. » « Oui, dit le général, parce que tu étais apprécié des étrangers. » « Parlons d'autre chose. Qu'est-il advenu de notre point d'admiration de l'illustre Apollo des Marmolles des Los Cementerios ?» demanda Arias. « Il est devenu homme politique, » dit Grâce. « Je le sais, » dit Raphaël, « je sais qu'il a écrit une ode contre le trône ayant pour titre « De la tyrannie ».»« Pauvre tyrannie, » dit le général, « elle a déjà reçu le coup de pied de l'âne. De l'arbre tombé, chacun fait des bûches. Je sais aussi qu'il a écrit un poème contre les préjugés, mettant au nombre de ceux-ci la fatalité qu'on attribue au nombre 13, l'infaillibilité du pape, le renversement d'une salière. Allons, Raphaël, dit la comtesse en riant, il n'a rien dit de cela. Si ce ne sont pas les paroles, dit Raphaël, c'est du moins ou à peu près l'esprit général de ce chef-d'œuvre qui sera classé par l'opinion parmi les vermines qui rongent cette société, dit le général. Quand elle sera détruite, nous verrons comment on la remplacera. Du reste, reprit Raphaël, je sais que notre Apollo a composé une satire. Il se sentait du penchant pour ce genre, et il y a longtemps qu'il a senti germer dans sa tête les cornes de Marsyas. Une satire, dis-je, contre l'hypocrisie, et dans laquelle il dit que c'est un acte d'hypocrisie de réclamer le paiement du clergé, des religieuses et des religieuses chassées de leur cloître. Eh bien, mon cher neveu, avec ses belles compositions, il a obtenu qu'on lui trouvât assez de mérite pour l'admettre comme collaborateur dans un journal de l'opposition. J'y suis, dit Raphaël, et je devine ce qui lui est arrivé, parce que c'est une comédie qu'on voit jouer chaque jour. Il a taillé sa plume en forme de mâchoire d'âne, et ainsi armé, il a attaqué les Philistins du pouvoir. Tu as deviné comme un prophète, dit le général. Je ne sais comment il s'y est pris, mais ce qui est certain, c'est qu'il est devenu un personnage. Il a de l'argent, affecte le bon ton et crève d'orgueil. Je suis sûr, dit Raphaël, qu'il va se donner encore un nom de plus, Apollo Marmol des Carrares, et que, sans cesser d'écrire contre la noblesse et les distinctions, il sollicitera et obtiendra quelques charges honorifiques de la cour, comme par exemple premier écuyer du Parnasse. Et le duc, le trouverai-je à Madrid ? Non, mais tu pourras le voir en passant à Cordoue, où il se trouve avec toute sa famille. Le duc, dit le général, a enfin suivi mon conseil en abandonnant les affaires publiques. Tous les hommes de valeur doivent, au temps où nous sommes, se retirer sous leur tente comme Achille. Mais, mon oncle, c'est le moyen que tout aille à la dérive. On dit, continua la comtesse, que le duc s'est entièrement consacré à la littérature. Il compose quelque chose pour le théâtre. Je parie qu'il donnera pour titre à sa pièce « La caque sent toujours le hareng », dit Raphaël à voix basse la comtesse. Tais-toi, Raphaël, répondit sa cousine. Nous devons agir pour nos amis comme les fils pieux de Noé pour leur père. Que dit-il ? Demanda la marquise. Rien, ma mère. Il parle de la pièce sans l'avoir lue. Et Marie Salade, demanda Raphaël, est-elle montée au Capitole sur un char d'or traîné par ses admirateurs ? Elle a perdu la voix à la suite d'une pulmonie, répondit la comtesse. Est-ce que tu l'ignorais ? J'étais si loin de le savoir que je lui apportais de magnifiques propositions pour le théâtre de la Havane. Mais qu'est-elle devenue ? Puisqu'elle ne peut plus chanter, dit le général, elle suivra probablement le conseil de la fourmi de la fable. Elle apprendra à danser. Ou, ce qui est plus probable, dit la comtesse, elle restera à pleurer la perte de sa voix. Mais où est-elle ? Répéta Raphaël avec insistance. Je l'ignore, répondit la comtesse, et je le regrette parce que je voudrais lui offrir quelques conseils et quelques secours si elle en a besoin. Garde tes secours pour ceux qui les méritent, dit le général.
Tous les malheureux les méritent, mon oncle, lui répondit sa nièce.
Bien parlé, ma fille, dit la marquise avec expression. Si tu fais le bien, ne regarde pas à qui tu le fais. Si tu fais le mal, prends garde à toi, dit le proverbe.
Je persiste à demander où elle se trouve, reprit Raphaël, parce que j'apporte une lettre pour elle.
Une lettre ? Et de qui est-elle ?
De son mari.
L'as-tu vue ? Demanda la comtesse avec intérêt. Ne disait-on pas qu'il était en Allemagne ?
On se trompait, il s'est embarqué sur le même vaisseau que moi pour la Havane.
Qu'il était changé et paraissait malheureux, je suis sûre que vous ne l'auriez pas reconnu. Seulement, il était toujours aussi doux, aussi obligeant, aussi bon. Mais peu de temps après notre arrivée, il est mort de la fièvre jaune.
« Il est mort ?» s'écrièrent ensemble la marquise et sa fille.
« Pauvre Stein !» dit la comtesse.
« Que Dieu le reçoive dans sa gloire !» ajouta sa mère.
« La mort de cet homme de bien restera sur la conscience de cette maudite cantatrice, » dit le général.
« Moi qui me crois invulnérable, quoique je n'ai pas eu l'épidémie, poursuivit Raphaël, j'allais le voir dès que je sus qu'il était malade.
« Mon bon Raphaël !» dit la comtesse en prenant la main de son cousin.
La maladie fut si violente que je le trouvai presque à l'extrémité, mais aussi tranquille et aussi bienveillant qu'à son ordinaire. Il me remercia de ma visite et me dit que c'était un vrai bonheur pour lui de revoir une figure amie avant de mourir. Il me demanda une plume et du papier, écrivit presque mourant quelques lignes, me pria de mettre l'adresse au nom de sa femme et de lui envoyer sa lettre avec. Ensuite, les vomissements survinrent et il mourut, une main dans celle du prêtre qui l'aidait à bien mourir et l'autre dans la mienne.
Je te confierai ce dépôt, cousine, pour que tu l'envoies par une personne de confiance à Villamar où elle s'est probablement retirée auprès de son père.
Voici cette lettre, dit Raphaël en tirant de sa poche un papier soigneusement plié.
Je la lis quelquefois comme je lirais un hymne.
La comtesse déplia la lettre et lut ce qui suit.
« Maria, toi que j'ai tant aimée et que j'aime encore, si mon pardon peut effacer en toi quelques remords et si ma bénédiction peut contribuer à ton bonheur, je t'envoie l'un et l'autre sur mon lit de mort. » Fritz Stein.